Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Du petit Grégory au petit Émile, retour sur ces affaires et faits divers qui fascinent les Français. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
On vient de l'apprendre, les ossements du petit Émile ont été découverts hier à proximité du hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Annonce du parquet d'Aix-en-Provence. Une annonce donc du procureur de la République et le petit garçon, 2 ans et demi au moment de sa disparition, n'avait plus été vu depuis juillet dernier à proximité de ce hameau où habitent ses grands-parents.
Cela faisait 9 mois que son visage angélique était placardé sur les avis de recherche. Émile, 2 ans et demi, est donc mort dans des conditions qui restent inexpliquées. Un drame qui émeut la France entière et qui ravive le traumatisme provoqué par l'assassinat du petit Grégory. On était en 1984, il y a bientôt 40 ans, et pourtant tout le monde connaît cette tragédie. Retour ce soir sur 4 décennies de mystères et de passions tristes. Et tout cela avec nos invités. Bonsoir Sophie Nemeyer.
Bonsoir Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service police-justice à RTL, donc on vous croise à la machine à café. Ainsi que Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir Flavie, bonsoir à tous.
Mon cher Jean-Alphonse Richard, vous êtes journaliste, vous êtes présentateur de l'heure du crime du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30 sur RTL. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre votre case, vous étiez à 20h.
C'est vrai.
Et vous voici désormais dans mon fauteuil. Qui est désormais le vôtre hein, depuis toutes ces années. On vous écoute.
Et il est très confortable.
Avec beaucoup d'attention. Je l'avais bien préparé pour vous et la réciproque est vraie. Allez, on va parler de ce mystère qui auréole encore cette histoire incroyable, cette affaire qu'est l'affaire Grégory. Mais je voudrais quand même que l'on revienne avant sur l'actualité. C'est donc le 30 mars dernier qu'a été retrouvé le crâne du petit Émile. À ce jour, on n'est pas encore en mesure, hein, Sophie Nemeyer, d'expliquer les raisons de la mort du garçonnet. On en est où en fait ?
Non, toutes les pistes restent ouvertes, effectivement. C'est ce qu'a rappelé le procureur de la République d'Aix-en-Provence lors d'une conférence de presse. Même si on peut se dire maintenant, avec ce crâne qui a été découvert non loin finalement de la maison des grands-parents où Émile devait passer les vacances d'été. Il venait d'arriver dans cette maison le matin même. Et donc, eh bien, la proximité de la découverte de ce crâne laisse à penser que eh bien, la piste accidentelle est très probable.
Cette découverte, elle a eu lieu 48 heures seulement, Jean-Alphonse Richard, après une mise en situation avec 17 personnes pour reconstituer le moment où Émile a été aperçu pour la dernière fois. D'aucuns ont trouvé les circonstances particulièrement étonnantes, un timing étrange, alors que la zone avait déjà été inspectée en long, en large et en travers lors de battues. Vous comprenez cette circonspection ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Effectivement, il y a cette mise en situation. On retrouve très rapidement le crâne du petit Émile. Je ne pense pas qu'il y ait un lien très direct, sauf que cette mise en situation, elle a emmené beaucoup de monde, encore une fois, sur la zone. Il faut pas se leurrer, il faut pas se voiler la face. Il y a aussi des recherches un petit peu morbides qui sont entreprises dans toutes les disparitions par, comme ça, des individus qui vont dans la campagne pour essayer de retrouver des ossements, voire de retrouver le petit garçon. Donc ça s'est produit à ce moment-là. Difficile de faire un lien direct. Quant au quadrillage de la zone, ce sont les autorités qui le disent. Vous savez, c'est une grande montagne, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup d'apics, il y a beaucoup de caillasses. Et après tout, est-ce que ce lieu a été vraiment exploré ? On ne le sait pas.
Sophie ?
Oui, 1500 hectares ont été ratissés en 9 mois. C'est ce que nous ont révélé des sources proches de l'enquête il y a quelques jours. 1500 hectares. Et on ne peut pas être sûr que chaque mètre carré a bien été fouillé. Et puis, il faut rappeler que certes, il y a eu des chiens pisteurs qui ont été dépêchés sur place, mais ces chiens, ils ne peuvent renifler qu'un très court temps, finalement, sur le temps de la journée. Donc, difficile, même avec les moyens les plus modernes, eh bien, d'être sûr à 100% que la zone où est mort le petit Émile a bien été fouillé.
Mais donc on se dirige plus, si je vous écoute bien, vers une thèse de l'accident.
C'est la science qui va le dire. On sait que.
Mais on va le savoir quand.
Mais on sait qu'il faut trouver d'autres ossements. C'est très important pour essayer de, non pas de reconstituer le corps, ça paraît difficile, mais de retrouver d'autres indices. On sait que le crâne, il y a une trace sur le crâne, il y a un coup sur le crâne. On sait aujourd'hui que c'est un animal, ça, les spécialistes, ils arrivent très vite à le détecter. Mais il faut d'autres os pour savoir s'il n'y a pas des fractures, s'il n'y a pas eu des chocs qui sont inhabituels, pour mieux comprendre. Et puis il y a aussi l'analyse des habits, des vêtements qui ont été retrouvés. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que l'ADN sur les habits et les vêtements, il a tendance comme ça à s'évaporer très vite. Mais enfin, encore une fois, là, c'est la science qui a son mot à dire. Aujourd'hui, on était dans des recherches humaines, même un peu technologiques avec des drones, etc. Là, aujourd'hui, c'est la science qui va avoir le dernier mot.
Il faut peut-être se préparer au fait qu'on ne saura peut-être jamais exactement ce qui est arrivé à Émile le jour de sa disparition. Si on ne retrouve pas, par exemple, d'autres ossements, à un moment donné, la science a ses limites.
Tout à fait. Et c'est le problème de cette histoire, c'est qu'on risque de rester sur un point d'interrogation. Oui. Et dès lors qu'on reste sur un point d'interrogation, ce n'est pas une disparition, mais dans le cas Grégory, c'est exactement ça. Oui, dès lors qu'on reste sur le point d'interrogation, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations.
Les affaires qui touchent les enfants sont les plus épouvantables, celles qui déchaînent toutes les passions. C'est quoi leur spécificité
Évidemment, ce sont des gamins. Il y a des familles qui sont au premier chef concernées. Et j'ai envie de dire qu'un meurtre d'enfant, c'est terrifiant. On est d'accord, évidemment. Mais dès lors que le coupable est retrouvé, on peut commencer à expliquer. Les familles sont confortées, si vous voulez, dans une espèce de certitude.
Sinon, c'est inconcevable, en fait. C'est ça que
c'est inconcevable. Ce qu'il y a de pire, c'est la disparition.
Ouais.
La disparition, c'est épouvantable. Dans l'heure du crime, on reçoit souvent des familles, des associations. Il y a des familles qui portent ces combats parfois pendant des années. J'ai le souvenir d'une maman lyonnaise qui aujourd'hui doit être très, très âgée, mais sa fille a disparu, elle ne l'a jamais retrouvée. Mmh. Il y a 30 ans, 40 ans de ça.
Comme couple Villemain, hein,
les combats continuent,
pas.
Tout à fait.
Sophie ?
Oui, ce qu'on peut dire également sur la disparition d'Émile, c'est que bon, si la piste accidentelle est confirmée, en tout cas, le fait que le petit garçon ait échappé quelques secondes à la surveillance de ses grands-parents, quelque part, ça nous est tous arrivé d'avoir perdu de vue un enfant qui était sous notre responsabilité en très peu de temps. En général, la plupart du temps, heureusement, ça se termine bien, mais ça parle à tout le monde.
Oui, ça a une résonance, en fait, dans chacun d'entre nous. On va se retrouver dans un instant, parce que la mort atroce du petit Émile, le mystère qui l'entoure, ne sont pas sans rappeler le traumatisme de l'affaire Grégory. Je vais vous demander dans un instant si l'emploi du mot traumatisme est bien approprié. Tout le monde connaît l'affaire Grégory, tout le monde connaît le visage de cet enfant. L'affaire Grégory, le crime qui cristallise toutes les passions, c'est maintenant dans Jour J.
Le corps d'un enfant de 4 ans, dont les pieds et les mains étaient ligotés, a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Grégory Villemain avait disparu ce soir vers 17h30. Les gendarmes ont été prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une vengeance familiale.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.
Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez pourquoi ? Qu'est-ce qui vous en veut à ce point ?
Je ne sais pas. Je peux pas savoir.
Est-ce que vous avez une petite idée ?
J'en ai une, mais je la garde.
Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez ?
Moi, je le connais. Je le connais, oui.
Sophie Neumayer et Jean-Alphonse Richard sont nos invités ce soir pour revenir sur l'affaire criminelle la plus illustre de France qui a traumatisé un pays tout entier à plus d'un titre. Car l'affaire Grégory, c'est le crime d'un enfant de 4 ans. C'est un mystère aussi qui demeure 40 ans plus tard. Est-ce que j'ai raison, Jean-Alphonse Richard, de parler d'un traumatisme ?
Ah oui, c'est un traumatisme. C'est presque une tragédie nationale, Grégory.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, on va en parler, mais beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a le rôle de la justice, le rôle de la gendarmerie, de la police...
De la presse.
Et le rôle de la presse, tout ça est très, très entremêlé. Et puis il y a cette histoire de petit garçon, il y a un déclencheur qui est terrifiant, il y a deux déclencheurs finalement qui sont terrifiants. C'est le petit garçon près de la rivière, près de la Vologne, avec son bonnet sur les yeux, il est ligoté, on dirait une petite poupée qui est posée, et puis ce pompier qui va chercher le corps comme ça. Alors évidemment aujourd'hui ça paraît hallucinant qu'on fasse ça à l'époque, mais c'était comme ça. Donc la presse régionale va publier cette photo, qui va être la photo pas du siècle, mais enfin qui va cristalliser effectivement toute l'attention. Puis il y a le corbeau, très vite. Alors, la voix du corbeau, il y a cette histoire familiale. Et les histoires familiales dans les villages, comme ça, il y en a beaucoup. Évidemment qu'on se reconnaît. C'est un village français, c'est une histoire française et c'est une tragédie française.
C'est la première fois que j'ai entendu parler d'un corbeau autre que l'oiseau noir. Parce qu'effectivement, à l'époque, j'allais avoir 10 ans. Vous n'en aviez que 5, Sophie Neumeyer. Et pourtant, c'est un traumatisme, comme le disait Jean-Alphonse, de tout un pays. Quel souvenir est-ce que vous en avez gardé? Parce qu'on y reviendra, mais c'est un traumatisme que l'on transmet aussi. Moi, mes enfants, qui ont 20 ans et 28 ans, connaissent l'affaire Grégory. Donc, on la transmet en héritage. Oui, vous avez un souvenir de l'époque, vous, Sophie, ou pas?
Alors, je ne me souviens pas particulièrement du jour...
Parce que vous aviez, mais sensiblement l'âge du petit Grégory. Enfin.
Exactement. C'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Mais par contre, c'est une affaire avec laquelle on a tous grandi.
Oui.
Puisque, voilà,
qui
ça fait 40 ans.
A conditionné aussi les attitudes des parents, je trouve.
Exactement,
dans les années 80.
Et qui a traumatisé beaucoup d'enfants, effectivement, comme nous. Effectivement. D'autant qu'on ne sait pas, même s'il y a une thèse, où chacun peut avoir sa thèse d'ailleurs. Mais
oui,
on sait
et
pas
chacun là d'ailleurs.
Jour, voilà, dire ce qu'il s'est passé. Donc c'est un traumatisme. Et c'est un traumatisme qui est ravivé régulièrement puisqu'il y a des rebondissements, ou en tout cas la justice continue de chercher, les parents de Grégory Villemain continuent de chercher également, et donc on en parle régulièrement, et donc ce traumatisme est ravivé.
Et entretenu. Moi j'ai pour la première fois regardé la série Doc de Netflix en 5 épisodes ce week-end. J'avais la trouille d'y retourner, Jean-Alphonse Richard, parce que moi j'avais 10 ans. J'avais peur d'y retourner, et c'est vraiment un doc que je conseille à ceux qui nous écoutent et toutes les émissions que vous avez pu consacrer à cette affaire, parce que j'ai vu l'affaire dans sa globalité, alors que nous on la vivait au quotidien dans une France émue, divisée, parfois venimeuse. On va y revenir, mais c'était quand même une période...
Oui, c'est un huis clos à grande échelle, hein, Grégory.
Ouais.
On est dans cette vallée fermée de la Vologne. Le ciel est bas. Alors, c'est peut-être des clichés, tout ça, mais c'est la vérité. Et lorsqu'on est dans cette vallée, on va nulle part, finalement. Il y a ces villages qui sont accrochés un peu partout, et puis ces gens qui se regardent, et puis la maison du chef, parce que c'est ça. Le départ de l'histoire, Jean-Marie Villemain, n'oubliez pas qu'on est en 83,
ouais.
Le corbeau commence à s'activer en 81.
Voilà, avant la mort de Grégory.
Exactement, et on est dans quoi? On est dans les premières années où le fric est un peu désinhibé, où effectivement les gens qui réussissent, ils commencent à se montrer, on va tomber dans les années tapis.
Ouais.
Et ce couple Villemain, jeune couple qui se fait bâtir une maison, il attire tout de suite la jalousie et une espèce de haine. Et le corbeau, il parle de ça au début. Hein.
Alors justement, expliquez à ceux qui... Parce que moi, j'avais par exemple oublié que le corbeau avait harcelé la famille Villemain pendant quasiment un an et demi avant l'assassinat de Grégory.
Et le corbeau sait tout, puisqu'il ramène à des drames anciens qui ont eu lieu dans la famille.
Donc en fait, il appelle. Alors à l'époque, Villemain. Pour les plus jeunes, hein, c'est un téléphone avec un fil. On appelle, on n'a pas le numéro de la personne qui nous appelle. Donc l'appel anonyme est plus simple, je dirais, parce que tu ne vois pas le numéro qui t'appelle. Donc on décroche et là, on entend une voix transformée.
Oui, une voix transformée, il y a de la musique derrière, c'est une voix rock très très grave.
Dont on ne saura jamais vraiment si c'était un homme ou une femme.
On va dire que c'est une femme, à un moment donné. Les experts vont dire que c'est une femme. Et puis, il écrit aussi, le corbeau.
Ouais.
Attention, le corbeau, il écrit. Et le corbeau prend tous les risques, hein, parce que le jour où Grégory est décédé, le lendemain, Jean-Marie Villemain reçoit une lettre en disant...
Posté du village.
Tu vas crever, etc. Donc voilà, j'irai cracher sur ta tombe. Voilà, donc ça, c'est le...
J'espère que tu mourras de chagrin, le chef, parce que c'est... Voilà.
J'espère que tu mourras de chagrin.
C'est terrifiant, le lendemain.
Tout le monde s'est identifié à cette famille, Villemain-Jacob.
Tout le monde s'identifie parce que, encore une fois, c'est une histoire française, c'est une histoire de campagne française. À l'époque, la France, elle est moins industrialisée qu'aujourd'hui. Il y a moins de citadins. On est encore dans une espèce d'agriculture. On est aussi dans des petites usines. Il y en a beaucoup dans cette vallée de la Vologne, des petites manufactures qui prospèrent. Et effectivement, voilà, tout le monde s'identifie parce que, effectivement, il y a toujours des histoires de famille. Les Villemains, tous les dimanches, ils avaient des discussions autour de la table. C'est une très grande famille, les Villemain. On compte plus les cousins, les tantes, les oncles, etc. Et puis, ces discussions, elles sont devenues de plus en plus sombres, de plus en plus aigres, de plus en plus insultantes, même parfois. Donc voilà, il y a eu un déclic comme ça qui peut se passer dans toutes les familles. Alors évidemment, la France entière, elle s'identifie.
Et puis il y a des secrets de famille avec le fils caché qui n'est pas en fait le fils du père Villemain,
le fameux bâtard,
le demi-frère du
père de Grégory. Le bâtard évoqué par le corbeau.
Exactement.
Voilà, l'affaire Grégory, donc c'est une famille comme une autre, sauf qu'il s'y est passé un drame. L'affaire Grégory, ce sont des coups de théâtre, des accusations en veux-tu, en voilà, des rétractations, de la jalousie, de la vengeance, bref, une tragédie. On se retrouve dans un instant sur RTL.
On a un fils d'ailleurs du même âge. Comme je vois, comme il est avec mon fils, il l'aime, il le chérit. Non, c'est pas vrai. Je dis, il est même pas capable de tuer un lapin, alors je ne crois pas qu'il soit capable de faire du mal comme ça.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
On parle de l'affaire Grégory ce soir avec nos invités que vous entendez sur RTL, que vous écoutez. Sophie Neumayer, qui est journaliste au service police-justice de la radio, et Jean-Alphonse Richard, que vous écoutez évidemment tous les après-midi dans l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard, lors de cette affaire qui a secoué la France, l'affaire du petit Grégory, on était en 1984. Sophie avait 5 ans, j'en avais 10. N'en prenez pas ombrage, vous étiez un petit peu plus âgé que nous. Vous aviez 24 ans et vous vous êtes rendu sur place, vous.
Moi, j'avais 24 ans. L'affaire Grégory a éclaté quand j'étais au journal Le Parisien Libéré. Mais ce n'est pas pour Le Parisien Libéré que j'ai couvert l'affaire, c'est pour France Soir Magazine, qui n'existe plus aujourd'hui, cette publication. Et effectivement, je faisais partie de cette espèce de contingent de journalistes. Il n'y a pas d'autre terme, parce que c'était Good Morning Vietnam dans cette vallée de la Vologne, avec une invasion de journalistes, de pays même étrangers.
Voilà, on reviendra sur le traitement médiatique. Etc. Mais quel souvenir vous avez de ce village quand vous êtes arrivé? Vous êtes jeune reporter.
Ce qui était frappant, parce que moi j'ai eu la chance de les interviewer, les parents Villemain, dans une petite maison. Ils étaient d'ailleurs chez la mère de Christine Villemain. Et j'avais trouvé ses parents d'une grande dignité et complètement... avec beaucoup de courage d'ailleurs, parce qu'il y avait une pression médiatique terrifiante. Et ils étaient tous les deux assis là. On avait pris... le repas ensemble, voilà. Donc,
comment c'était... on s'empare, lorsque l'on est un jeune journaliste, vous n'aviez que 24 ans, de ces histoires et de ces drames? Parce qu'on parle de la tragédie quand même d'un enfant de 4 ans qui a été retrouvé, le visage recouvert d'un bonnet, les pieds et les poings liés, et qui s'est noyé dans la Vologne. Comment est-ce qu'à 24 ans, on fait face à la douleur d'une tragédie comme ça?
Mais hélas, j'ai envie de dire, et mea culpa, on ne fait pas face. Quand vous avez 24 ans, il y avait beaucoup de chiens fous, j'en faisais partie.
Ouais.
Donc c'était avant tout, on va peut-être y venir, mais ça, c'était avant tout la course au scoop.
On va en parler justement.
C'était la course à l'interview exclusive, c'était la course à la photo.
Vous avez des regrets? Vous avez le sentiment d'être passé à côté de quelque chose d'humain, enfin c'est...
Bien sûr, mais à l'époque, encore une fois, on est pris dans une espèce de tourmente, avec la pression d'ailleurs des rédactions derrière et des chefs qui demandent des résultats. Il y a une concurrence féroce à l'époque. Paris Match est bien devant, avec Jean Kerr, effectivement, il y a eu beaucoup de choses de faites.
Mais est-ce que ça vous a traumatisé, vous aussi?
Alors, c'est pas traumatisé, mais c'est une leçon.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne refait pas, et qu'on ne refera jamais. Et il faut dire, quand les journalistes se trompent, il faut le dire, on s'est trompé. Et la presse, dans cette histoire, s'est trompée.
Et elle a influencé beaucoup, beaucoup de choses. Et le cours aussi de l'histoire, on y reviendra. Pour ceux... les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas l'affaire Grégory, on va quand même revenir sur ceux qui ont été accusés, si vous le voulez bien. Parce que les soupçons se sont portés sur, je dirais, deux personnes principalement. On parlera du couple Jacob un petit peu plus tard. C'est Bernard Laroche d'abord et Christine Villemain, la maman, dans un second temps. Bernard Laroche, expliquez-nous, qui était-il?
Alors, c'est le cousin de Jean-Marie Villemain, le papa du petit Grégory. Et effectivement, les soupçons vont se porter très vite sur ce cousin qui va être mis en examen, on disait inculpé à l'époque. Il va même être placé en détention provisoire avant finalement d'être lâché.
Alors on va expliquer les choses. Il a été mis en accusation par Muriel Boll, donc sa belle-sœur, 15 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'elle avait dit au gendarme, Muriel Boll?
Au gendarme, elle dit qu'elle a assisté à l'enlèvement
du petit Grégory.
Du petit Grégory, c'est tout simple, avec effectivement tonton Bernard.
Donc elle était avec
Bernard
Laroche.
Elle est dans une voiture, il s'est arrêté devant la maison et il a pris le petit garçon. Voilà ce qu'elle raconte.
Elle a donc mis en accusation Bernard Laroche, mais après qu'elle ait fait ça, Muriel Boll va être renvoyée dans sa famille au motif que c'était vendredi soir et sur demande du juge Lambert qui voulait partir en week-end. Et donc, quelques jours plus tard...
Non, c'était pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas les ponches de celle. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Jean-Alphonse
Richard ? Je pense que...
Qu'à un moment donné, un juge dise, bon, écoutez, vous êtes gentil, il y a une première mise en accusation, Bernard Laroche, mais bon, renvoyez la petite dans la famille, on verra ça lundi, je pars en week-end.
On est complètement d'accord, c'est-à-dire qu'on ne va pas jeter la pierre au juge Lambert, qui est décédé aujourd'hui.
Il s'est suicidé il y a quelques années, on y revient.
Mais qui, effectivement, porte une lourde responsabilité dans la gestion de cette affaire. C'est-à-dire que c'est à géométrie variable. Voilà, donc il écoute une personne, il envoie Bernard Laroche en prison, mise en examen, puis Bernard Laroche va ressortir. Elle s'est retractée, mais on ne pose pas plus de questions. Il y a une direction d'enquête qui est extrêmement flottante. C'est un jeune juge.
Inexpérimenté.
Il est inexpérimenté, et puis il s'est enfermé dans des certitudes. Voilà.
Il aime les médias.
Il aime les médias, il adore. Alors, il habite au premier étage dans Épinal, dans un appartement dont il laisse les portes ouvertes. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'il avait une grande photo de lui-même au-dessus de son lit. On le voyait depuis le bas de l'immeuble et on l'appelait à la fenêtre pour essayer d'avoir des informations, etc. Qui serait sorti comme ça sur le pas de sa fenêtre pour parler à des journalistes avec sa photo derrière lui? C'est quand même étonnant. Voilà.
Bernard Laroche, vous l'avez dit, Sophie, sera remis en liberté et entre-temps, Jean-Marie Villemain aura forgé ses convictions. Et le 29 mars 1985, 5 mois après la découverte du petit garçon.
Bonsoir. Jean-Marie Villemain a tué Bernard Laroche d'un coup de fusil. Le drame a eu lieu en fin de matinée au domicile de Laroche. Ensuite, Jean-Marie Villemain s'est constitué prisonnier.
Et là, Sophie Neumeyer, on est dans la tragédie. On l'était. Il y a aussi dans cette histoire, on le disait tout à l'heure, une résonance avec nos propres convictions et nos propres histoires. Combien de fois est-ce qu'on s'est dit, si un jour on touche à mes enfants, je serai capable de l'irréparable?
Oui, effectivement, Jean-Marie Villemain a fait ce que beaucoup de Français, peut-être, auraient fait à ce moment-là, même si on rappelle il ne faut pas se faire
bien sûr
soi-même. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on ne sait pas dire aujourd'hui si Bernard Laroche est bien celui qui a tué le petit
Grégory. Il aurait été plus utile vivant. Hein.
Il aurait été bien plus utile vivant, effectivement. L'enquête aurait pu certainement mieux avancer. Et donc, voilà, ce père qui... Lui est persuadé que son cousin est le responsable et qui décide donc de se faire justice lui-même.
Mais ça, Jean-Alphonse, ça a touché la France entière aussi.
Oui, c'est terrifiant parce que effectivement, Jean-Marie Villemain, c'est quelqu'un de bien. Il cherche toujours qui a tué son fils et aujourd'hui avec beaucoup de dignité et de respect. Et il a été pris dans un engrenage fatal, à savoir que là aussi, la presse porte sa responsabilité. Il y avait une pression énorme. Laroche. Il est devenu fou ce jour-là, Jean-Marie Villemain. Il a pris sa carabine, il était avec le dernier journaliste à avoir vu, c'est Jean Kerr de Paris Match, qui lui a d'ailleurs déconseillé de faire quoi que ce soit et de ne pas aller faire une connerie, comme il disait. Mais il a fait cette énorme connerie. Et ça, et je crois que c'est quelqu'un de très intelligent, Jean-Marie Villemain, et donc il s'en est rendu compte.
Voilà, et puis progressivement, les regards vont se tourner vers Christine Villemain, la maman du petit Grégory. On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Sophie Neumeyer et Jean-Alphonse Richard sont nos invités. Jean-Alphonse Richard, vous vous rappelez ce soir avec nous et sous notre oreille attentive, vous rappelez l'affaire Grégory, puisque vous vous êtes rendu, vous, dans ce village et vous avez rencontré les parents du petit Grégory et tous les acteurs principaux de ce drame dont on a dit que c'était un drame national. Il y a quelque chose, moi, qui m'avait marqué à l'époque et que j'avais trouvé, en tout cas, très traumatisant. C'est la façon dont la mère du petit Grégory avait été traitée au moment où les regards se sont tournés vers elle et que les soupçons se sont abattus sur cette femme qui venait déjà de perdre son enfant. Et en fait, quand on revisite l'histoire, au-delà même de ses souvenirs, mais quand on se plonge vraiment dans cette histoire, on se rend compte que ce doute a été orchestré. Et c'est dégueulasse.
Alors, mais il faut...
c'est nauséabond. Enfin, j'ai eu la nausée, moi.
Il faut bien juste rappeler qu'à l'époque, il y a presque deux clans qui se dessinent. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a des clans qui disent c'est la mère, qui revient toujours. La mère, c'est le fameux matricide.
Alors, porté par des intellectuels voilà, comme Marguerite Duras, quand même.
Oui, c'est complètement.
Et son article dans Libération.
Est complètement délirant, parce que Marguerite Duras, sûrement grande romancière.
Sublime, mais, forcément sublime, voilà, avait-elle écrit pour la mettre en accusation.
Oui, et elle va dire, c'est forcément elle. Ouais. La maison, c'est la maison du crime.
Ah ouais.
Elle a juste oublié quelque chose, c'est que le fait divers, c'est la vraie vie.
Oui, et puis que ce n'est pas l'affaire d'un écrivain.
Et ce n'est pas de la fiction. C'est pas de la fiction. On peut raconter des fictions après, avec, sous d'autres noms, etc. Mais ce n'est pas de la fiction. Et donc là, effectivement, la maman s'est retrouvée sous le feu, comme ça, des accusations. Alors, il y a cette analyse graphologique qui ne vaut absolument rien, mais qui la désigne.
Elle a été accusée, en fait, d'être son propre corbeau, c'est-à-dire d'avoir posté après le crime.
Par des collègues. Par des collègues qui disent... Ils ne savent même pas ce qu'ils ont vu. Mais ils disent...
Il y a des témoins qui disaient l'avoir vue...
Peut-être
à l'endroit où la lettre
c'est
a été postée.
On l'a vu à la poste, mais ça ne veut rien dire.
Et surtout, en fait, c'est l'histoire d'une justice qui s'emballe sur des accusations qui sont...
Et encore une fois, on réagit, ce que ne devrait pas faire la justice, et Sophie Neumayer ne va pas me contredire là-dessus, en tout cas, mais c'est que la justice réagit à chaud. Et ça, c'est dans l'affaire Grégory, c'est...
Et à l'opinion publique.
C'est un emballement, on répond à l'opinion publique.
Et puis le 5 juillet 1985...
La rumeur courait depuis plusieurs semaines, cette fois-ci c'est fait... Christine Villemain a été arrêtée cet après-midi et inculpée par le juge Jean-Michel Lambert de l'assassinat du petit Grégory, c'est-à-dire de son enfant. Ce soir, Madame Villemain passe sa première nuit à la prison de Metz.
Alors qu'elle était enceinte et que son mari était derrière les barreaux. Ce sont des choses qu'on a oubliées. Et je trouve ça, Sophie Neumayer, absolument terrible de regarder les choses en face aujourd'hui, 40 ans après, et de revoir les images de cette femme accablée par le chagrin, enceinte, parce qu'on leur avait conseillé à ce couple qui s'aimait d'avoir un nouvel enfant, de se raccrocher à la vie pour surmonter ce deuil impossible.
C'est terrible.
Et cette femme qui, elle-même, est accusée... J'ai même souvenance de... Vous disiez, Jean-Alphonse, que les familles étaient divisées, il y avait des clans.
Bien sûr.
Moi, j'ai entendu... Sous le toit, sous mon propre toit, j'ai entendu des choses innommables au sujet de cette femme. Et c'est Je me souviens, j'étais gamine, c'est horrible. Comment est-ce qu'on pouvait accuser une femme ?
Ben c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, a posteriori. Mais à ce moment-là, effectivement, il y avait ces deux clans qui s'opposaient. Et donc, ceux qui voulaient sauver absolument Bernard Laroche, eh bien, accusaient Christine Villemain. Et finalement, la justice a quand même suivi le juge Lambert. A suivi, c'est ça le plus terrible. Mais la justice, qui s'est très vite déjugée, il faut quand même le dire aussi, la cour d'appel de Dijon, qui, lorsqu'elle prononce un non-lieu, écrit qu'il y a absence totale
bien
de
sûr.
Charge.
Oui, oui, non, mais c'est important. Mais enfin, bon, c'est pas ça, tu vois, qui va.
Mais
il y a un garde-fou quand même. Hein, la justice a bien réagi. Elle a rétabli la situation. Elle a fait très peu, heureusement, de jours de prison, Christine. Mais c'est une tâche indélébile. Il faut savoir que ce couple, à l'époque, Jean-Marie Villemain est en prison pour avoir tué Bernard Laroche. Et elle est en prison.
Et c'est le monde à l'envers. Et un enfant au cimetière. Enfin,
le monde a basculé. C'est-à-dire que ce sont. Les victimes, les Villemain, il ne faut jamais l'oublier. Ce sont les victimes.
Bien sûr. Et les victimes qui ont été clouées au pilori par l'opinion française et par la presse. Et c'est ça qui est important, parce que justement, progressivement, on y arrive, Jean-Alphonse Richard. Mais c'est aussi un drame qui a marqué un tournant dans le traitement médiatique de ce genre d'affaires.
Oui.
On a assisté à un emballement médiatique.
Oui, c'est un emballement médiatique, comme il y a d'ailleurs toujours dans les grandes affaires. Hein, je suis désolé, mais sur l'affaire des Milles, il y a un emballement médiatique, etc.
Oui, mais avec la leçon, si je puis dire, non ?
C'est vrai, sur les grands faits divers. On a retenu certaines leçons, en tout cas, je l'espère, notamment en matière d'intrusion dans la vie privée des personnes. À l'époque, les portes sont ouvertes.
Non, mais
c'est-à-dire que les journalistes, il n'y a pas de retenue.
Et on le voit, il y a des images qui le prouvent, et on va en parler dans un instant, mais vous frappiez en fait aux maisons des acteurs de ce drame.
Et les acteurs de ce drame, encore une fois, qui n'étaient pas habitués à être protégés même à ce genre de déferlante, c'est terrifiant parce qu'il y a des vies entières qui ont basculé. Hein, donc voilà.
C'est sidérant. Et avec, quand on revoit les images, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, mais un manque, on va y revenir dans un instant, un manque cruel de clairvoyance, de bienséance.
Dès le départ, puisqu'il y a ce petit corps. et de bienséance qui est sortie de la Vologne. Il y a les parents qui sont poursuivis en permanence. Les images dans le cimetière sont terribles.
On va se retrouver dans un instant parce qu'on va commencer notre prochaine séquence avec ces images justement et cette indécence lors des obsèques du petit Grégory. J'ai revu les images ce week-end, j'ai éclaté en sanglots, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Cette séquence est absolument bouleversante. On va l'entendre dans un instant parce que c'est important aussi de regarder quelque part cette histoire en face. À tout de suite. C'est le 20 octobre 1984 qu'auront lieu les obsèques du petit Grégory. Écoutez le chaos qui régnait au cimetière ce jour-là.
Laissez les photos un petit peu. Je vous en prie, vous en avez déjà.
Arrêtez, ça va nous faire un incident. Hein.
Bon, arrêtez.
Des journalistes absolument partout, Jean-Alphonse Richard, des objectifs braqués sur un couple enlacé qui suit le cercueil du petit Grégory. On épargnera ce soir nos auditeurs de la réaction de Christine Villemain, moi qui m'a emporté la douleur de cette femme, et des journalistes, des photographes sur les tombes, en train de piétiner des bouquets sur les murs du cimetière. C'est une meute.
Oui, puis on verra même des journalistes qui ont apporté des jouets sur la tombe pour faire des photos. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'affaire Grégory, il ne faut jamais l'oublier, il y a une donnée économique qui est importante. L'affaire Grégory, elle fait vendre beaucoup de journaux. Elle fait des tirages extraordinaires. Je crois que Match, ça fait pareil. Il faudrait leur poser la question, mais ça fait parmi les tirages les plus importants, Grégory. Donc la moindre photo exclusive de la maman sur la tombe, etc., tout le monde la guette. Et on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux. Attention.
Tu m'étonnes.
Donc là, on est à l'époque de la télé et des journaux, mais l'affaire Grégory, ça fait vendre.
Quitte à mettre en scène.
Ah oui, mettre en scène. Mais bien sûr, il y a eu des poursuites engagées pour ça. Il y a eu effectivement des espèces de reconstitutions. Il y a eu des photos plus ou moins truquées. Après, des photos volées, il y en a eu beaucoup. Des photos de paparazzi, bien sûr.
Il y a quelque chose qui m'a frappé en fait dans le doc que j'ai vu aussi ce week-end. C'est ce couple qui n'est absolument, alors évidemment, qui vit un drame épouvantable. Mais c'est un monde, c'est une société où la surmédiatisation n'existait pas réellement. C'est aussi en ça que l'affaire Grégory est emblématique. Et ce couple, en fait, que l'on voit dans son drame le pire et le plus intime, exposé au monde, comme on dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Et avec des journalistes qui frappent à la porte de leur maison, qui rentrent dans le jardin, qui rentrent dans la chambre du petit Grégory. Enfin, c'est inimaginable.
Mais c'est... Tout est permis. Et puis, encore une fois, ces personnes, ces Villemain, ils ont appris au fil des jours à se dire que tout ça n'était pas normal, mais ça a mis du temps.
Oui, parce qu'au début, en fait, on les voit répondre.
Au début, les gens rentrent, les journalistes rentrent dans les maisons, etc. Il n'y a pas de souci.
On imagine que ça leur tombe dessus aussi, donc ils ne savent pas comment gérer tout ça. Ils sont dans leur douleur, ils ont peut-être envie d'exprimer cette douleur, essayer de comprendre ce qui est arrivé à leur enfant. Et les médias, sont...
Et face à la voracité aussi des médias qui sont prêts à tout. Et puis il y a un truc qui est fou aussi, c'est que les journalistes, Jean-Alphonse, ils avaient accès à tout. Ils avaient accès aussi à l'enquête. Ils avaient accès au juge, Lambert, qui aimait beaucoup leur répondre et organiser même des fausses paparazzanes. Enfin...
Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avoir accès à l'enquête, tant mieux. J'ai envie de dire, on le fait tous les jours, c'est le boulot aussi de qu'on fait, on enquête et on essaie d'avoir des documents adéquats pour pouvoir faire des papiers qui soient construits et qui soient solides. Après, accès aux personnes, ça dépend aussi des personnes. Un magistrat, vous ne pouvez pas le forcer à parler s'il n'a pas envie de parler. Le juge Lambert, il était friand de cette espèce de célébrité, etc. C'est la première fois aussi qu'il y a eu des conférences de presse devant une gendarmerie, on n'avait jamais vu ça auparavant. Et il y avait très peu de télé, il y avait beaucoup de radio, il y avait très peu de télé et beaucoup de journaux. Mais effectivement, c'est un emballement médiatique, une photo étonnante.
Et des journalistes quand même, Jean-Alphonse. Il y avait des jeunes journalistes qui débutaient, comme vous, et puis des journalistes plus chevronnés à l'époque. Je pense à Jean-Michel Bézina, il travaillait alors pour 8 médias différents. Ce qui veut dire que déjà 8 médias français affichaient le même son de cloche. Comment est-ce qu'on peut rester neutre et pas influencer l'opinion dans ces affaires-là?
Alors,
et en plus, il signait avec des noms différents. Enfin, il était quand même redoutable.
Là, c'est aussi, j'ai envie de dire, un peu autre temps, autre mœurs. À l'époque, ça paraissait tout à fait normal. On était dans une espèce de normalité. La personne dont vous parlez, Jean-Michel Bézina, qui travaillait aussi pour RTL, il faut bien le dire, Elle était dans l'Est, elle avait un rayon d'action qui était très large. C'était un bon enquêteur, Jean-Michel Bézina. Il avait envie d'aller au fond des choses, d'essayer de voir ce qui se passait.
Et de choper le scoop.
Et de la quête du scoop. Et puis il faut savoir que il gagnait aussi sa vie avec de nombreuses piges. Ça, on ne peut pas lui en vouloir. Mais après, c'est vrai
qu'il y a une espèce de... Non, mais de se dire qu'il travaillait pour 8 médias qui allaient forcément dire la même chose.
D'accord, après il y a un discours unicolore et uniforme qui se dessine. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, ça ne serait plus le cas.
Mais la presse, dans la communication, cette presse était absolument essentielle pour tous. C'est ça qui est fou. Elle était essentielle pour l'enquête, elle était essentielle pour les clans contre Laroche, les clans contre Villemain. Comment est-ce qu'on pouvait résister aux tentatives de manipulation, ou en tout cas les percevoir ?
C'est le libre arbitre qui joue. Il faut essayer de se faire une idée en pesant le pour et le contre et de voir les éléments réels. C'est pour ça que l'accès au dossier est très important, de savoir ce que disent les uns et les autres. Et éviter, je suis désolé, mais il faut éviter de prendre parti. Il ne faut pas tomber dans une espèce de manichéisme. Encore une fois, lorsque le cas Christine a explosé, beaucoup plus que le cas Jean-Marie, qui est différent, mais lorsque le cas Christine a explosé, là, on avait vraiment vu une dichotomie dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y avait les pour et les contre. Et ce sont des clans qui sont restés très très longtemps opposés. Aujourd'hui, on entend encore, il y a un bruit de fond là-dessus, sur Christine, qui continue, qui est nauséabond, mais qui peut parfois continuer et persister. C'est dire si cette affaire, elle avait pris profondément racine dans la société de l'époque et dans ses réflexes.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Je me disais qu'on parlait de certains ce soir qui ne sont plus là, à l'instar du juge Lambert qui instruisait l'affaire et qui s'est suicidé en 2017, 34 ans après le crime. On va se retrouver dans un instant. Est-ce que c'est une affaire qui hante toujours ceux qui l'ont traité ? On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.
Nous sommes à un tournant d'une affaire très difficile. Avec des résonances humaines très profondes, je demande instamment à toute la presse de concilier la liberté de l'information qui doit être absolument respectée avec toutes les réserves possibles à propos des personnes dans des circonstances comme celle-là.
Vous venez d'entendre le ministre de la Justice de l'époque, Robert Badinter, qui avait tenu à rappeler tout le monde à l'ordre. Jean-Alphonse Richard et Sophie Neumayer, vous êtes donc nos invités ce soir. C'était important que la voix politique, la voix de la justice puisse à un moment donné mettre le holà, Jean-Alphonse Richard, à cette époque de l'emballement médiatique autour de l'affaire du petit Grégory.
Mais c'est surtout exceptionnel.
Oui. J'ai rarement on n'a jamais vu ça.
Un ministre de la Justice sortir comme ça de sa réserve et puis s'exprimer et demander halte au feu, c'est-à-dire calmez-vous. Il faut revenir à la raison. C'est dire l'emballement et la folie médiatique de cette histoire. C'est vrai que c'est rarissime. Je pense que c'est peut-être une des premières fois d'ailleurs où on entend ça.
Le juge Lambert qui instruisait l'affaire, dont on a déploré aussi, Sophie, l'incompétence, la passion des médias, s'est suicidé en 2017, donc je le disais tout à l'heure, 34 ans après le crime. Est-ce que vous pensez qu'il y a des affaires qui peuvent hanter à vie, vous qui êtes sur le terrain, qui traitez des grandes affaires criminelles, qui peut hanter à vie ceux qui les ont traitées ?
Ah oui, complètement. Je pense qu'on croise régulièrement avec Jean-Alphonse des magistrats qui, soit parce qu'ils n'ont pas réussi à faire aboutir l'affaire et à trouver ce qui s'est réellement passé, soit parce qu'il y a eu effectivement des manquements à certains moments dans l'enquête qui font que elle n'a pas pu avancer. Et ça, c'est assez terrible. Mais on en parle régulièrement dans l'émission de Jean-Alphonse, justement, de ces cold cases pour lesquelles on n'a toujours pas des affaires toujours non élucidées. Et ces affaires-là, forcément, elles hantent les magistrats qui travaillent pendant des années dessus, qui échangent avec les familles qui sont toujours en quête de vérité et de réponse. Et donc, oui.
Les policiers aussi, beaucoup. Juste un exemple, dans l'affaire du Grêlé, un des policiers...
Le
Grêlé, c'est un violeur en série et tueur qui a été interpellé grâce à l'ADN, mais il s'est suicidé juste avant qu'on puisse l'arrêter.
Dont on a parlé dernièrement parce qu'il s'était rendu sur un plateau de télévision, c'est ça?
Oui, c'est ça, chez Nagui. Ouais, donc ça, c'est pour l'anecdote. Ouais. Mais,
ancien policier, ancien gendarme, et donc qui...
Et violeur en série.
Et violeur en série. Et tueur. tueur et violeur et tueur. Et un policier qui a mené les premiers pas de l'enquête, qui avait son grand regret, c'était de ne pas avoir trouvé qui était le grêlé. Et il avait toujours sur son bureau une photo de la première victime du grêlé. Parce qu'il devait ça à ses parents. Il avait juré aux parents qu'il retrouverait l'assassin. Il ne l'a pas retrouvé, mais enfin, on l'a retrouvé aujourd'hui, tant mieux, même mort. En tout cas, il y a une explication.
Est-ce que ça hante aussi les journalistes, ce genre d'affaires ?
Fatalement, oui.
Moi, franchement...
Si vous avez fait des trucs que vous n'auriez pas dû faire à l'époque dans votre métier, effectivement, ça peut hanter. Après, je pense, encore une fois, moi, je suis assez optimiste là-dessus, parce que je pense qu'il y a des leçons qu'il faut tirer. Et lorsqu'on tire ces leçons, on est meilleur après. Voilà, ça, c'est vraiment, moi, la leçon que je tire.
Oui, mais c'est vrai que, Sophie, vous touchez ce qu'il y a de plus obscur aussi. Enfin, c'est, quand je vous demandais ça, c'est que moi-même, en abordant cette émission, franchement, il y a parfois des mots, j'ai peur des mots que j'emploie, j'ai peur de faire offense aux morts, j'ai peur, vous voyez ce que je veux dire?
Je vois totalement ce qu'on garde, enfin, en plus on couvre régulièrement des procès, on va, pour le coup, même jusqu'au bout, quand finalement on peut, par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques mois, Monique Olivier, le procès de Monique Olivier,
Donc c'est fourniré assez...
L'affaire Fourniret, avec l'affaire Estelle Mouzin notamment, où on a revécu ces heures terribles avec les parents de la petite Estelle qui, pendant des années, n'ont pas su, pendant des années, l'enquête qui n'arrivait pas à aboutir. On a découvert même ses frères et sœurs et ses demi-frères et demi-sœurs qui sont venus témoigner à l'audience et qui sont très très forts. Mais forcément, on emporte avec nous toutes ces histoires et on les garde en fait en nous, et c'est assez terrible. Et ça, des faits divers comme ça, malheureusement, il y en a tellement.
Il y a un tiroir au secret où on garde tout ça, mais encore une fois, lorsque vous traitez l'affaire, je pense que c'est comme ça qu'on survit aussi, hein. C'est que c'est pas du cynisme ce que je vais dire, mais il faut se couper en deux. C'est que vous êtes observateur avant tout, vous êtes là pour témoigner et rapporter, c'est ça le métier de journaliste, c'est pas autre chose. Donc vous pouvez pas non plus, encore une fois, prendre parti, comme ça a été le cas parfois dans l'affaire Grégory dont on parle, ou bien vous impliquer directement dans la peine d'une famille qui n'est pas votre famille. Donc encore une fois, il faut tenir ses distances et avoir une espèce de miroir, non pas déformant, mais à distance.
Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Sophie Neumayer, merci beaucoup. On vous retrouve régulièrement sur l'antenne d'RTL. Jean-Alphonse Richard, c'est tous les jours de 14h30 à 15h30 avec l'heure du crime.
Merci Flavie, c'était un plaisir.
Merci infiniment. Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bisset. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée à l'écoute d'RTL. À demain.